Sans plus attendre, je vous propose que tour à tour, vous ayez en gros 15 à 20 minutes chacun pour présenter votre point de vue là-dessus. Alors peut-être on va commencer par Séverine. Mm-hmm. Autour donc, nous, le Séverine, toi tu es prof d'EPS dans finalement le lycée qui a construit le premier mur d'escalade qui ensuite a donné l'idée là que les murs d'escalade maintenant sont largement répandus dans les structures d'escalade. Donc, c'est vrai que nous, on a immédiatement pensé au lycée de Corbeil en se disant, mais alors, finalement, un lycée historique du point de vue de l'activité escalade, comment il s'en sort avec cette circulaire? Vous, vous aviez établi aussi un certain nombre de, puisqu'on avait publié dans la revue Contre-Pied, un protocole de sécurité de fonctionnement de votre équipe en escalade. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu, c'est quoi ce protocole-là et comment vous en sortez avec cette publication de cette nouvelle circulaire PPL et donc du protocole escalade qui est accroché.
Ok.
La parole est à toi, je vais donc... je mets ça dessus. Bon, on a choisi de mettre du vert, parce que comme c'est la soirée PPL, on s'est dit que ça pouvait être une thématique intéressante. Parce qu'il y a la voile aussi, avec la PPL.
Ah, c'est vert. C'est bien quand même vert.
Voilà, c'est pour vous rappeler le plein air.
Alors moi, juste avant de démarrer, juste pour vous dire que là, moi, je viens de porte-parole de l'équipe EPS Douaneau, qui est à ma droite, et que c'est vous faire une petite intervention. J'avais prévu de la faire en trois temps. Dans un premier temps, c'était de vous réexpliquer un petit peu, nous, les axes prioritaires qui nous organisaient jusqu'à présent dans nos cycles d'escalade de la seconde à la terminale au lycée de Corbeil. Après, dans un deuxième temps, comme le disait Bruno, on voulait vous présenter le protocole de sécurité, protocole de départ qu'on a mis en place suite à notre expérience de terrain, nos discussions, et on vous proposera... Un petit déroulé de photos. Et puis troisièmement, et c'est là où on en vient au cœur du sujet, c'est-à-dire vous faire part, nous, de nos questionnements, nos interrogations, suite à l'apparition de cette nouvelle circulaire. Et je pense que dans vos bahuts, ça va être un peu la même chose. Et ça va être après l'objet de débattre, je pense. Alors, au lycée de Corbeil, on a vraiment trois axes prioritaires qui organisent notre enseignement, enfin jusqu'à présent. Je remets jusqu'à présent. Vraiment de la seconde à la terminale. Nous, la première chose importante, c'est faire en sorte que l'élève il réalise sa meilleure performance en tête. Deuxième axe, c'est faire en sorte que l'élève il développe sa motricité de grimpeur avec l'escalade en moulinette. Et troisième élément, c'est que notre élève, faire en sorte que l'élève devienne un assureur compétent en moulinette et en tête. Donc c'est vraiment ça qui nous organise. De la seconde à la terminale. Pour vous donner un exemple, en seconde, on a un slogan, c'est « Tous au sommet en tête ». C'est un slogan qu'on annonce dès le départ, et ça va être un petit peu le contrat à réaliser, à réussir avec les élèves. En terminale, notre évaluation bac, c'est trois éléments. Il y a une partie de l'évaluation, c'est sur la réalisation d'une voie en tête, en libre. La deuxième partie, c'est une épreuve qu'on appelle une épreuve de continuité. Donc c'est une épreuve en moulinette, avec la corde molle, avec le nœud magique. Et l'épreuve, elle consiste en une escalade, une désescalade et une remontée. Donc ils ont une évaluation sur cette voie-là. Et puis pour terminer, il y a une partie d'évaluation sur la sécurité, en tant qu'assureur et en tant que grimpeur. Donc voilà, c'est pour vous placer un petit peu le cadre. On a, par rapport à ce protocole de départ, on est parti d'un constat où on relevait souvent des erreurs des élèves par rapport à l'installation du système de freinage, d'assurage, qui n'était pas forcément sur la bonne corde. C'était vraiment très confus, les élèves avaient du mal à visualiser les trajets de corde et justement à installer au bon endroit le système d'assurage. Donc on a mis, alors ça fait 2-3 ans, un protocole qui est simple, qui a l'avantage d'être valable aussi bien sur des voies en tête qu'en moulinette, et en plus qui est très visuel. Et qui permet à l'enseignant de vérifier avant chaque départ de voie que tout le matériel est bien installé avant le départ dans l'ascension. Donc là, moi, je vais vous le présenter. Et pour l'illustrer, je vais vous juste quelques photos qui va vous, de manière chronologique, vous expliquer. Donc là, on est sur une voie en tête. Donc les deux élèves sans corde, chacun a un bout de corde. Et donc, il y a vérification mutuelle du nœud par les élèves, donc avec le nœud à bonne distance du comptel, le nœud doublé, etc. Donc, vérification mutuelle. Donc ça, c'est l'étape numéro 1 des élèves. Une fois que c'est fait...
C'est long à vérifier, peut-être.
Ouais, c'est très très long. Comme ça. Okay. Alors, on va le faire là, à l'ancienne. Alors, première étape, le grimpeur, donc à savoir là, la grimpeuse, elle va aller et grimper et aller poser la corde dans la première des galets. Et après, elle désescalade. Et à chaque fois, l'assureur est là pour parer aussi bien à la montée qu'à la descente. Donc on a un assureur qui part et une grimpeuse qui va aller installer la corde à la première dégaine et qui désescalade. Là va commencer la formation du triangle. Et ça, le triangle. En gros, une fois que la grimpeuse a installé la corde, la grimpeuse va reculer, va sortir à l'extérieur des tapis. Va alors commencer à apparaître le triangle. Le grimpeur, l'assureur est donc proche du mur, va donc attraper la corde qui descend le long du mur, et donc, en tirant la corde, va former ce triangle. Il va même pouvoir sentir le poids de la grimpeuse au bout de la corde. Donc il y a à la fois visuellement ce triangle, à la fois au niveau de tactile, de sentir le poids de la corde, le poids de la grimpeuse, et donc d'installer le système d'assurage au bon endroit. Donc là, voilà, ça c'est important, c'est vrai que de sentir, au niveau de la représentation, de sentir que là, le grimpeur, il est là, et donc le système d'assurage, je vais l'installer là. Et il visualise comme ça le système de poulie. Donc, au bout de cette corde, il installe le système d'assurage. Donc, il installe le système d'assurage sur son mousqueton automatique, sachant que maintenant on a des mousquetons différents qui permettent directionnels qui permettent à faire en sorte que le mousqueton travaille toujours dans le bon sens. Donc, on a rajouté un petit élément. Et donc, là, l'assureur est au pied du mur, il a installé son système d'assurage, la grimpeuse est à l'extérieur des tapis, le triangle est formé. L'élève va alors lever la main pour demander l'autorisation au professeur de grimper. Et le système, c'est comme une tour de contrôle. L'image qu'on donne aux élèves, c'est comme dans un aéroport, quand un avion décolle, et ben, il demande autorisation à la tour de contrôle, et là, en l'occurrence, la tour de contrôle, c'est le prof. Donc là, nous, en tant qu'enseignants, on est en retrait, on voit le triangle, donc là, il n'y a pas eu d'erreur au niveau de l'installation des cordes. L'assureur, on lui demande qu'il se tourne pour visualiser que tout est bien installé, et à partir de là, on a donné l'autorisation pour grimper. Donc là, la grimpeuse va approcher du mur, va monter à la première dégaine, l'assureur, donc, assure en 5 temps, et on fait, il y a une dernière petite étape. En gros, la grimpeuse s'arrête à la première dégaine, s'assoit, et l'assureur fait un test, ce qu'on appelle le test du premier point, et la redescend. Voilà, donc ça c'est un protocole qui est très simple, et il a l'avantage aussi qu'en moulinette c'est exactement la même chose. En tête on appelle ça le triangle du bas, en moulinette c'est le triangle du haut. Et les élèves ils comprennent très bien, la corde est déjà installée, les deux grimpeurs sans corde à chaque bout de corde, le grimpeur sort à l'extérieur des tapis, l'assureur reste proche du mur, je tire la corde, je forme le triangle, je sens le poids de ma grimpeuse, j'installe mon système d'assurage, le grimpeur lève la main, tour de contrôle, ok, on y va. Voilà, c'est des choses qu'on a instaurées et qui fonctionnent, et qui fonctionnent relativement bien. Pour terminer, voilà, là c'est un protocole, et comment dire. Pour terminer, moi, c'était vous parler donc de la dernière, la parution de la dernière circulaire et les questions que ça soulève chez nous. C'est une évidence qu'on est convaincu que c'est primordial de se questionner, de se re-questionner sur nos pratiques. Il est évident que la sécurité, encore plus en escalade, c'est un élément qui est primordial, essentiel. Mais c'est vrai qu'avec ce texte, à l'intérieur de notre équipe, il y a quand même pas mal d'interrogations et de questions qui sont apparues. Et en gros, ce serait de deux ordres. Dans un premier temps, c'était surtout par rapport à la faisabilité réelle des prescriptions là, qui sont données sur le terrain. Et le deuxième point, c'est sur la nature même de l'escalade qu'on va enseigner. Voilà, et pour nous, c'était surtout la place de l'escalade en tête. Alors, je vous donne quelques exemples et je vais essayer de ne pas déborder parce que j'imagine que Vincent, il va détailler tout ça. Mais en termes de faisabilité, c'est le fameux contrôle tactique des nœuds. Alors nous, on ne comprend pas comment un prof peut à la fois aller se déplacer, aller toucher les nœuds, tout en étant en retrait pour voir l'ensemble du mur. Donc ça nous paraît difficile. Eric avait testé avec notre protocole du premier point en tête. Une fois que la tour de contrôle appelle, c'est possible, le grimpeur peut reculer jusqu'à la table, peut nous montrer les nœuds, et du coup, on peut faire un contrôle tactique des nœuds avant le démarrage avec la tour de contrôle. Ça, c'est possible. Bon, je ne vous raconte pas le tricotage des cordes, mais c'est possible. Et puis, en moulinette, c'est pas possible, la corde n'est pas assez grande. Voilà, je vous donne des petits exemples. Les queues de vache en moulinette. Ça, on voit pas comment c'est possible, sachant que le prof doit être le dernier maillon de la chaîne de contrôle. Ça aussi, comment on se multiplie. Alors, pour reprendre l'expression d'un collègue présent, en gros, il y a un élève qui va être le gardien de vache, quoi. Parce qu'en gros, il va aller faire les vaches, les défaire. On peut faire des triplettes avec un gardien de vache et puis un assureur et un grimpeur, mais en gros, le troisième, nous, on s'interroge toujours sur le rôle de ce troisième. Parce que souvent il parasite un petit peu l'assurage. Voilà, donc on se demande. Et puis par rapport à la faisabilité, c'est par rapport aux effectifs de nos classes. Alors nous, au lycée de Corbeil, on a réussi pour nos classes de pro à mettre 3 profs de classe, ce qui nous fait des effectifs à 20, même moins de 20, et là c'est largement faisable. Par contre, quid de nos classes de seconde à 31 ? Alors pareil, on s'interroge, est-ce qu'on ne ferait pas des ateliers avec une partie de la classe en atelier, une partie de la classe en escalade en tête? Pareil, franchement, avoir nos élèves en tête et avoir une quinzaine d'élèves en autonomie qui arrivent à se motiver pour faire une pratique de bloc sans faire trop de bazar, nous, on résiste à l'envie de tourner la tête pour voir ce qui se passe et puis résister aussi aux questions qu'ils vont nous poser. On se demande aussi les ateliers, comment c'est gérable. En gros, c'est le comment, quoi. Là, on est sur la faisabilité. Je vais finir sur le pourquoi, parce que pour nous, c'est ce qui est peut-être le plus important. C'est quelle escalade on a envie d'enseigner, avec quelles intentions éducatives derrière. Parce que pour nous, l'escalade en tête, c'est vraiment ce qui nous permet de faire vivre des expériences authentiques à nos élèves. L'éducation à la gestion de la prise de risque. Comment éduquer à ça sans qu'il y ait un minimum de risque pour que ce soit authentique? Question encore, le risque zéro existe-t-il? Mais bon, je pense que Vincent va développer. Juste pour terminer, nous, on a quand même la sensation au lycée de Corbeil d'être dans un endroit un peu particulier. Comme tu l'as dit, Bruno, il y a une histoire de l'escalade. Il y a eu des militants qui ont œuvré et qui avaient pour objectif de démocratiser l'escalade. De rendre accessible à tous l'escalade en tête, et nous on est toujours porteurs de ça, parce que pour nous c'est là où il y a des apprentissages riches et authentiques, et en plus notre mur il a été conçu pour ça, donc on est conscient aussi que je vous remontre notre mur il a été conçu pour ça. Par ses enseignants, il y a une cheminée, il y a beaucoup de dièdres, il y a des dalles. Donc du coup, il y a beaucoup de voies faciles. Donc pour se lancer dans l'escalade en tête, voilà, évidemment, au mur de Corbeil, c'est un peu plus facile. Et puis il y a cette histoire aussi. C'est-à-dire que quand on est nouvel enseignant, eh ben, on est tout de suite pris en charge parce qu'il y a une histoire et on la sent, cette histoire. Et nous, on a envie d'être porteurs de cette histoire. Pour conclure, pour vous dire, en gros, moi, on pensait que c'était important de vous rappeler les axes prioritaires, parce qu'en gros, bien sûr, il y a cette histoire, nous, qu'on porte au lycée de Corbeil, mais on est conscient aussi du contexte actuel, avec cette société, où un petit peu plus sécuritaire, nos effectifs de classe qui augmentent, nos élèves qui changent, c'est pas les mêmes qu'il y a 20 ans. Et du coup, ce qu'on peut constater, nous, dans l'équipe, on a eu une petite réunion là-dessus au mois de juin, c'est que nos axes prioritaires, ils sont toujours là, sauf que depuis 20 ans, on a peut-être un petit peu plus diversifié nos modes d'entrée. On ne rentre pas forcément tout le temps par l'escalade en tête, on rentre un petit peu plus, enfin, on peut rentrer par la moulinette, par la pratique du bloc. Le tri-grimp de la FSGT, avec les protocoles, là, nous a beaucoup inspirés. Et puis voilà.
Quand tu fais référence au trigramme de la FGT, ouais. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que le trigramme de la FGT, parce que...
Alors, moi, dans la philosophie du trigramme, il y a l'idée, c'est d'amener l'élève à l'escalade en tête, avec, en passant par des étapes. La première étape, c'est de développer la pratique du bloc, parce que ça met en route, ça met en action et ça fait accéder l'élève à une motricité de grimpeur assez rapide, avec plein de petits jeux. Le whistiti, aller faire sa vache, aller suspendre, juste prendre confiance dans le matériel. Un petit jeu du remont de pente où il faut s'auto-monter et du coup savoir utiliser le matériel. Donc, et puis c'est partir à l'assaut d'une voix en tête. Et du coup, après, une fois qu'on est parti à l'assaut d'une voix en tête, c'est nourrir ça au niveau de sa motricité. Part de l'escalade en moulinette. Je ne sais pas si je suis claire, mais en gros, c'est une logique.
Alors, mais les collègues qui voudraient, par exemple, trouver ce que tu es en train de dire, s'il y a des documents disponibles sur le trigramme, où est-ce qu'ils pourraient puiser plus précisément ces éléments-là?
Ouais, vas-y, donne la réponse. Non, moi, je l'avais, c'était dans l'escalade...
contre-pied.
Ouais,
l'escalade contre-pied.
Ouais, contre-pied.
Et puis dans le...
dans le livre, ah, très bien fait.
Oui, voilà.
D'accord. Alors, on va peut-être. Donc c'est le trigramme, je comprends bien, est présenté dans le contre-pied escalade.
Bah oui.
Qui est présent ici. Ok, merci Sabrine. Donc, Vincent, tu es prof de PS en LEP. Et tu es aussi, par ailleurs, guide haute montagne. Tu fais partie des quelques collègues qui. Dès la publication de la circulaire APPL, ont été tout de suite un peu inquiets et ont écrit rapidement cette, puisque on a eu tes premières réactions avec d'autres réactions au niveau de la France, où tu nous alertais, tu te posais des questions sur mais c'est quoi cette circulaire, et déjà tu voyais un certain nombre de contradictions. Alors depuis, tu as pris le temps de l'analyser, tu es rentré vraiment dans un certain nombre de détails sur cette circulaire-là. Donc, la question un peu que tu essayes d'aborder dans ta présentation, c'est de se dire, mais entre cette circulaire et puis tous les autres textes déjà qui font référence à la question des APPL, que ce soit les évaluations BAC, etc., toi, tu perçois aussi des contradictions. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, voilà, quels sont les éléments clés à prendre en compte dans cette circulaire? Est-ce que pour autant les questions de sécurité sont respectées? Voilà. Quelles sont les incidences plus globales sur l'enseignement de l'escalade dans les établissements scolaires?
Alors en fait, j'ai eu la démarche suivante pour répondre à ta question, de faire des arrêts sur image sur certaines parties de la circulaire, un travail peut-être un petit peu fastidieux, pas très rigolo, et de le soumettre à la réflexion de tout le monde. Dans un premier temps, une petite introduction autour du contexte dans lequel sont apparus ces nouveaux textes réglementaires. Dans un second temps, j'ai pris le texte tel qu'il a été rédigé, et puis j'en ai extrait quelques parties qui me semblaient importantes à prendre en compte. Je propose quelques pistes de réflexion, et enfin... peut-être que la quatrième partie s'adresserait peut-être plus directement à vous, à des propositions, pourquoi pas, à faire remonter. En tout cas, encore une fois, c'est à l'ordre de piste. Mais en guise de synthèse, je crois qu'il y a 7 ou 8 propositions concrètes relatives à cette circulaire. Alors, les éléments de contexte. En escalade, il y a eu... on le sait tous, quelques accidents. Les accidents sont relativement peu fréquents, mais quand ils arrivent, ils ont souvent des conséquences assez graves. Et puis, je pense que si vous êtes tous ici ce soir, c'est que vous devez enseigner l'escalade, et que je crois que tout intervenant, même s'il n'a pas eu d'accident, il lui est arrivé au moins une fois ou plusieurs fois où il s'est fait peur. Donc c'est quand même une activité dans laquelle les choses peuvent tourner très rapidement. Et c'est vrai que c'est une activité dangereuse qu'il ne faut pas prendre à la légère. Sur une période relativement récente, le législateur s'est arrêté sur un certain nombre d'accidents dans les APPN au sens large, mortels. Certains accidents auraient peut-être pu être évités. Donc évidemment, quand il y a des élèves qui meurent dans le cadre des cours de PS, forcément, tout le monde s'interroge dessus et on comprend la douleur des parents et forcément, il y a un lever de bouclier des réactions. Pour ma part, là, je me recentre sur l'escalade. Au cours des années... des années récentes, sur une période relativement récente et encore aujourd'hui, il m'arrive de constater des situations qui me mettent mal à l'aise. Ça, je crois qu'il faut qu'on se le dise, qu'on le reconnaisse. Au niveau de l'escalade, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et il y a des leçons qui ne sont pas toujours suffisamment cadrées, des pratiques limites au niveau de l'enseignement de l'escalade, dans le monde de l'EPS. Je crois que ça, c'est une réalité et qu'il ne faut pas se voiler la face par rapport à ça. On a des effectifs importants, voire très importants, et des murs et des falaises extrêmement variables d'un établissement à l'autre. Jusqu'en 2016, il n'y avait pas de cadrage particulier au niveau institutionnel. Donc ces textes, ils sont arrivés dans ce contexte, dans ce contexte-là. Et il me semble qu'ils sont, ils ont quand même une vraie légitimité, c'est-à-dire qu'ils répondent à un besoin et qu'il y avait une nécessité de recadrage à faire. Donc de ce point de vue-là, ils ont le mérite de tirer une sonnette d'alarme, de peut-être de faire prendre conscience à la profession dans son ensemble qu'on ne pouvait pas faire, qu'on était obligé d'évoluer dans nos pratiques. Et ces textes nous ont sensibilisés à la nécessité de mettre en place des protocoles de sécurité comme ça se passe dans d'autres champs professionnels. Et des protocoles de sécurité rigoureux. Ce qui n'était jusque-là loin d'être toujours le cas. Ces textes nous sensibilisent aussi sur les limites d'effectifs à nous fixer, tout simplement pour des questions de surveillance, de gestion d'effectifs. Je ne vais pas rentrer dans le détail, tout le monde comprend pourquoi. Mais on est quand même les seuls à s'autoriser à intervenir en escalade avec des groupes de 30-35. Et ça, c'est vrai que c'est pas forcément toujours évident, selon le contexte, bien sûr. Je ne dis pas que c'est infaisable, mais c'est quand on sort d'un cours avec 35 élèves, en général, on est fatigué. Et puis, ces textes, ils ont un troisième mérite, c'est qu'ils sensibilisent l'ensemble des collègues à la prise en compte du support sur lequel on grimpe. Ce support, que ce soit des falaises, des murs, il va être fondamental. Il est fondamental pour l'investissement de l'élève parce que la qualité du support dépend le plaisir et du plaisir va dépendre l'investissement et du coup les progrès. Ce support il va également conditionner les conditions de déroulement de la leçon. Séverine nous parlait tout à l'heure d'une expérience qui a été faite à Corbeil autour du triangle et du test de faire ce contrôle tactile en demandant aux élèves de reculer pour que la tour de contrôle n'ait pas à bouger et puisse effectuer tous ces contrôles tactiles. C'est peut-être possible chez eux, selon la configuration des lieux et dans d'autres situations, demander à tous les élèves de reculer, c'est pas toujours faisable. Donc la prise en compte du support, la prise en compte des conditions professionnelles est un élément fondamental à prendre en compte. Donc de mon point de vue, cette volonté de cadrage, elle se justifie tout à fait et d'une certaine manière, je trouve qu'il était temps qu'elle arrive. Mais c'est un point de vue personnel. Ces textes, ils ont malgré ces intérêts que je viens de développer, peut-être quelques limites. En particulier l'annexe à la circulaire qui traite de l'escalade, qui est très précise et très exigeante. On y reviendra par la suite. Ce qu'on constate aussi au niveau de cette circulaire, c'est qu'elle présente un seul cadre qui doit s'appliquer pour tous et dans toutes les conditions, qu'on soit dans le cadre de l'EPS obligatoire, dans les sections sportives, dans les métiers, dans les lycées qui préparent au métier de la montagne, ça s'applique de la même manière. Alors que cette même circulaire pointe du doigt le fait que, qu'il y a des différences entre un pratiquant qui a choisi et puis un élève qui n'est pas là de son plein gré. Donc du point de vue de l'exigence de la sécurité, dans l'absolu, il y a peut-être des nuances à apporter. Or, c'est pas le cas. Là, on a un cadre commun qui pose peut-être, enfin, sur lequel on pourrait peut-être apporter des évolutions. Alors, on en vient à la circulaire. Donc, première citation. Il convient d'engager les enseignants à s'engager avec des effectifs réduits. Oui, évidemment. C'est en escalade, c'est compliqué d'effectuer une surveillance de son effectif, c'est compliqué de guider les élèves pour qu'ils progressent quand on en a beaucoup. On a un espace qui n'est pas toujours évident à organiser. Donc oui, avoir une réflexion autour des limites qu'on se fixe au niveau de l'effectif, c'est salutaire et c'est nécessaire. Et savoir si on peut, dans tous les cas, s'autoriser à enseigner l'escalade avec 35 élèves, à mon avis, ça se discute. Ça va dépendre des conditions de pratique, des élèves, du mur sur lequel on travaille, d'un ensemble de choses. Mais c'est peut-être pas toujours souhaitable. Une petite remarque concernant les effectifs. En escalade, vous savez, il existe plein de façons de pratiquer différentes. Ça va des enrouleurs. Maintenant, on commence à en voir de plus en plus souvent dans les salles. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est des systèmes d'assurage automatique sur lesquels on a simplement à clipper le baudrier du pratiquant et puis il grimpe et quand il chute, ce système d'assurage le retient et le redescend doucement au sol. Donc ça va, la pratique peut aller de la pratique en moulinette sur enrouleur jusqu'à l'escalade en tête. Et entre les deux, c'est quand même le grand écart. Donc quand on réfléchit à la prise en compte de l'effectif, eh ben, évidemment que Séverine tout à l'heure soulevait la question des enjeux autour de l'escalade. Oui, mais on ne peut pas non plus faire n'importe quoi avec nos effectifs. Donc il faut mettre, je pense qu'on a intérêt à mettre en parallèle les enjeux éducatifs et nos conditions pratiques pour être en capacité d'assurer une sécurité maximale des élèves qui nous sont confiés. Second extrait commenté. On ne peut qu'inviter les équipes enseignantes à consulter les recommandations et les taux d'encadrement préconisés par les fédérations sportives délégataires. Concernant l'escalade. Pour l'instant, il n'y a pas de règlement précise à ce niveau-là. On a simplement un texte qui date de 2004, qui reste relativement vague et en gros qui fait appel au bon sens des intervenants, mais qui les laisse libres de décider combien de pratiquants il y a dans leur séance. Dans la formation des diplômes d'État escalade, actuellement, on leur donne quand même des chiffres. Les chiffres sont les suivants. 8 enfants par DE escalade, si ce sont des enfants débutants. 12 enfants s'ils sont débrouillés et jusqu'à 20 personnes si l'intervenant est face à un public déjà bien expérimenté. Ce discours qui est tenu aux futurs diplômés d'État en escalade ne fait pas la distinction entre les modalités de pratique. C'est les mêmes chiffres que l'intervenant fasse une séance en bloc, sur enrouleur ou en tête. Une petite parenthèse par rapport à ça, aujourd'hui, on a un nombre d'accidents qui augmente de façon importante en bloc. Et il commence à y avoir une prise en compte des problèmes de sécurité que peut poser aussi le bloc. Les cadres de la FFME que j'ai pu avoir au téléphone récemment me disaient qu'un texte allait sortir dans les semaines qui viennent sur des préconisations, voire des normes d'encadrement pour les diplômés d'État en escalade. En tout cas, on voit bien quand même qu'ils sont sur des taux largement inférieurs aux nôtres. Alors, ils ont des conditions de pratique différentes des nôtres, on ne va pas forcément revenir dessus, nous on connaît nos élèves. Ça se relativise, mais quand même, on est sur un ratio qui va presque du simple au double. Extrait suivant. Quand un stage APPN est organisé dans une autre académie, les enseignants doivent prendre en compte du protocole de l'académie d'accueil afin de s'imprégner des recommandations validées par les experts locaux. Le protocole académique le plus strict s'applique. Là, j'ai simplement tiré cette phrase de son contexte, juste pour vous rappeler que ce n'est pas forcément le protocole de l'académie d'accueil qui s'applique, mais bien le plus strict. Donc ça peut être le protocole de l'académie dont on vient, si ça a l'air qu'il est plus strict que le protocole de l'académie d'accueil. Les programmes du collège prévoient l'enseignement de l'escalade selon des attendus de fin de cycle précis. Alors, quelques remarques par rapport à ça. Les attendus de fin de cycle, tels qu'ils sont déclinés dans les programmes au collège, n'envisagent pas de modalité particulière. Ça sous-entend que un élève au collège peut grimper en tête si il a suivi une formation progressive et si l'enseignant juge que ses compétences le permettent. Au lycée, les niveaux font référence à une pratique en moulinette au niveau 3 et ouvrent la possibilité de pratiquer l'escalade en tête au niveau 4 et 5 de compétences. Là encore, c'est pas parce que l'escalade en tête est exigée au niveau 4 qu'un élève de seconde ne peut pas grimper en tête s'il a atteint le niveau 3. Et frais suivant. Pour l'encordement, le professeur finalise cette première étape par une vérification visuelle et tactile réalisée par ses soins. Pour l'assurage, la dernière vérification doit impérativement être réalisée par le professeur lui-même. La simple surveillance à distance est insuffisante pour assurer efficacement la sécurité des élèves. En moulinette, la modalité d'ascension doit permettre d'éviter tout retour au sol. Tout dispositif mis en place empêchant le retour au sol doit être contrôlé par l'enseignant. Et enfin, l'enseignant devra réaliser un nœud de sécurité sous le système de frein dès la première dégaine dépassée par les mains du grimpeur. Ça, c'est dans les références. La dernière citation est extraite des référentiels d'évaluation pour le lycée pro et pour le lycée général et technologique. En fait, la combinaison de ces différentes obligations, de ces différentes prescriptions, me font penser que c'est difficile à réaliser avec les effectifs qu'on a, sans rogner sur le temps de pratique des élèves. Et avec simplement deux bras et deux jambes. Donc en fait, ce cadre qui est très 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 précis, très prescriptif, qui s'applique à tous, demande au prof de PS, pour chaque départ dans une voie, à la fois de faire la dernière vérif, il ne peut en aucun cas la déléguer, donc de la faire lui-même. Cette vérification doit être nécessairement tactile. Ça veut dire qu'il doit être au contact de la cordée qui part sur une voie. Parallèlement, il doit s'assurer que pour toutes les autres cordées qui sont en train de grimper, il n'y ait aucun retour au sol possible. La solution qui est préconisée, c'est les nœuds de sécurité. Accessoirement, peut-être réguler guider ses élèves dans les apprentissages, gérer son effectif par rapport aux éventuelles questions et problèmes d'organisation, de discipline et autres. Bref, ça fait beaucoup de choses à faire. Voilà, donc à un moment donné, si un prof de PS veut appliquer et être dans le cadre de ces textes, il va nécessairement devoir faire des choix. Est-ce qu'il fait moins grimper ses élèves? Bon, on en discutera peut-être tout à l'heure, mais visiblement, il faut que j'accélère. Concernant cette question du contrôle tactile, Séverine vous a présenté tout à l'heure le triangle de sécurité. Ce triangle de sécurité, il peut tout à fait permettre de réaliser un contrôle visuel à distance dans de bonnes conditions. Et rien n'empêcherait le prof de PS de s'avancer au moindre doute. Ce qui est un petit peu gênant dans la circulaire, c'est de l'imposer de façon systématique. Concernant les nœuds de sécurité, là encore, j'y mets quelques réserves et quelques commentaires. On a trois textes, trois hauteurs différentes. Pour le référentiel de niveau 4, il est préconisé de faire dès la première dégaine. La norme sur les SAE dit que la première dégaine doit être au maximum à 3,10 m. En général, elle est à 3 mètres. Sur le référentiel CAP-BEP, le texte dit qu'il faut faire le nœud lorsque les mains du grimpeur dépassent 3,50 m. Et enfin, sur la circulaire d'avril 2017, c'est lorsque les mains du grimpeur dépassent 4 mètres. Donc c'est quand même pas évident de s'y retrouver. Parmi ces trois repères. J'ouvre une parenthèse concernant le premier repère qui est donné, c'est-à-dire 3,10 m. Peut-être qu'on pourra rentrer dans les détails un peu plus tard, mais 3,10 m, ça risque fortement de ne servir à rien et d'être fait trop tôt pour permettre d'éviter tout risque de chute au sol. À mon avis, il vaut mieux le faire un petit peu plus haut que 3,10 m. Alors, concernant toujours ces nœuds de sécurité, la circulaire dit que ce dispositif, qui peut être un nœud de sécurité, est placé sous le système de frein de l'assureur et à proximité de celui-ci dès que les mains du grimpeur dépassent 4 mètres, doit être mis en place pour empêcher le retour au sol du grimpeur et doit être contrôlé par l'enseignant. Ça sous-entend que l'enseignant, contrairement à la vérification tactile, il n'est pas forcément obligé de le faire lui-même. Mais par contre, il est obligé de le vérifier. C'est du coup une tâche qui se surajoute en plus du reste. Comment on fait pour vérifier, quand on a 15 cordées, pour vérifier les 15 nœuds de sécurité, effectuer 15 contrôles tactiles, réguler, et puis faire face à différents imprévus qu'on connaît tous. C'est pas facile. Bon, ça on peut. Je peux te laisser à la limite le document et puis si on ne va pas tout développer. Donc, la circulaire, toujours cette même circulaire, nous dit noir sur blanc que les encordements sont vérifiés systématiquement par le professeur pour débarrer la voie. Oui. Et ce, quel que soit le contexte.
Oui.
Ce contrôle systématique. On pourrait craindre que finalement ce soit une incitation pour les élèves à ne pas faire le rétro-contrôle. Dans la mesure où il y a quelqu'un derrière eux qui va vérifier, peut-être que ça pourrait entraîner une diminution du risque perçu chez eux et que du coup ils perdent l'intérêt, le sens du rétro-contrôle. Du coup, peut-être mettre en place, après une période de formation, une sanction au cas où le prof constate une erreur lorsqu'il fait sa vérif, pour que ce rétro-contrôle conserve un sens pour les grimpeurs. La question de la mouli-tête qui est apparue dans les nouveaux référentiels en 2017. Alors, la mouli-tête, il me semble que ça combine les limites de l'escalade en tête et de l'escalade en moulinette. Par exemple, lorsqu'on est en mouli-tête, on est obligé de clipper toutes les dégaines. Jusqu'à 5-6 mètres, on a une dégaine tous les mètres. Après, la norme permet d'avoir un espacement un peu plus important des points d'assurage. Mais c'est quand même des mousquetonnages très rapprochés qui ne sont pas forcément toujours cohérents avec l'ouverture. Et donc, on a un rythme d'ascension qui est complètement contraint par les mousquetonnages, alors que nous, dans ce qu'on voudrait, dans les acquisitions qu'on voudrait faire passer, c'est plutôt une adaptation à l'ouverture, d'adapter le rythme d'escalade aux contraintes posées par la voie. Deuxième limite, quand on est en mouli-tête, on a une corde au-dessus de soi. Donc tout l'intérêt de la gestion des émotions liées au risque de chute disparaît. Donc au final, la mouli-tête, ça peut être un passage intéressant quand on veut aller vers l'escalade en tête, mais de là à le garder, à le conserver dans le cadre d'un référentiel, personnellement, je suis un petit peu sceptique sur l'intérêt. Une petite remarque, ces nouveaux référentiels au bac, ils ouvrent sur une pratique pour l'instant qui est nouvelle, c'est cette pratique de la mouli-tête, mais ils oublient complètement les autres pratiques qui sont largement répandues, qui procurent du plaisir, qui peuvent entraîner des progrès moteurs chez les élèves très intéressants, comme le bloc ou l'escalade en moulinette. Pourquoi se priver de ces pratiques quand on a des installations qui le permettent? L'escalade en bloc. La circulaire nous dit « Elle offre dans un espace réduit une pratique riche et ludique en toute sécurité. » Alors, riche et ludique, pas toujours. Riche et ludique, à condition que les ouvertures soient de qualité et à condition que la structure soit adaptée pour la pratique du bloc. Si ce n'est pas le cas, on peut très bien faire du bloc sur des ouvertures pas drôles du tout et ça peut entraîner aussi une démotivation chez les élèves. Première limite. Deuxième limite, la question du sens pour les élèves. Lorsqu'on pratique du bloc, il y en a beaucoup qui risquent de chuter sur les premières dizaines de centimètres, alors que sur des voies faciles, ils ont la capacité de s'élever de plusieurs mètres. Pourquoi aller se ridiculiser devant les autres en tombant à 50 cm du sol alors que c'est possible de monter à 7-8 mètres de haut et donner un autre visage de soi aux autres? Enfin, en toute sécurité, c'est aussi ça relativiser. Actuellement, comme je vous le disais en introduction, on a beaucoup de... Dans le cadre fédéral, pas en EPS, hein, mais dans les pratiques fédérales, il y a de plus en plus d'accidents en bloc. Le bloc n'est pas du tout réglementé, pas du tout cadré dans la circulaire, alors qu'il y a quand même des dispositions à prendre, notamment en ce qui concerne la hauteur maximale des blocs et peut-être la question de la densité de pratiquants dans un espace de pratique. Bref, le bloc, c'est un outil qui est très intéressant, qui est très riche, à plein de niveaux différents. Mais ce n'est pas forcément une solution magique. Je vais conclure. Donc, les propositions. Conserver le principe de protocole de vérification avant chaque départ. Ça me semble être une avancée très intéressante et quelque chose à généraliser. Ceci dit, le protocole tel qu'il est présenté dans l'annexe, on l'a vu, est très contraignant. Et peut-être qu'il serait possible d'y apporter des aménagements pour l'assouplir. Comme par exemple, ne pas forcément systématiser le contrôle tactile ou la réalisation des nœuds de sécurité. Ce sont des choses qui peuvent être faites, mais faut-il les faire de façon systématique? Pour l'assurage, imposer l'utilisation de mousquetons directionnels, comme le disait Séverine. Dans les contextes de l'EPS non obligatoire, AS, section sportive, option, formation biqualifiante au métier de la montagne, je pense qu'on pourrait laisser la possibilité aux élèves de faire eux-mêmes la dernière vérification avant de partir. Ce cadre qui impose au prof de faire la dernière vérif et qui lui donne toute responsabilité, est-ce qu'il doit nécessairement s'appliquer dans le cadre de formations plus poussées? Est-ce que les élèves ne peuvent pas être plongés dans une pratique au sein de laquelle ils seraient un peu plus responsables? Dans le cadre de l'EPS obligatoire, peut-être vaudrait-il limiter le nombre de cordées lorsqu'on aborde l'escalade en tête. Là, cette circulaire, elle ne donne aucun chiffre, et pour le coup, personnellement, je ne serais pas défavorable à ce qu'on nous dise qu'il n'est pas possible d'intervenir de façon satisfaisante lorsqu'on est en escalade en tête avec plus de X cordées. Cadrer la pratique du bloc. Et puis, peut-être réfléchir au référentiel d'évaluation en laissant la possibilité aux équipes d'optimiser leurs ressources, leur lieu de pratique, en rendant l'évaluation possible en moulinette, en bloc, pourquoi pas sur enrouleur, selon évidemment les contraintes locales et puis la politique locale.
Bon, merci tous les deux. Désolé de t'avoir pressé, mais c'est vrai que comme on voulait aussi avoir d'autres types d'interventions et puis d'échanges, tu pourras reprendre la parole pour préciser après, au besoin, certains éléments. Alors,